I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial des vacances où je suis en train d'apprécier mon temps libre avec mes enfants. On passe de bons moments, évidemment. C'est un moment privilégié à passer en famille. Et je ne suis pas du tout fatigué pendant que vous entendez ça. Je n'ai pas du tout pas dormi pendant 15 jours dans un tout petit studio à 4. Mais ce qui est important, c'est ce dont on va parler. On enregistre, là, on est fin novembre 2023, et on va parler d'un sujet qui aura peut-être complètement changé déjà au moment où vous écouterez cet épisode, peut-être en 2024, 2023 ou 2024. On va parler d'IA, un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué ces derniers mois et ces deux dernières années. Je suis Patrick Béja, bien sûr, et c'est le rendez-vous tech. Généralement, on fait de l'actu. Là, c'est un épisode spécial qu'on diffuse pendant les vacances et qui a été préenregistré. Et on va parler d'IA, mais d'IA en pratique. On parle beaucoup des nouveaux produits, de ce qu'on peut faire en théorie, de la recherche dans l'émission. Et j'ai toujours cette petite frustration qu'on ne parle pas assez des applications concrètes, au-delà des petits tests qu'on peut faire ici et là, de la manière dont ça peut être implémenté dans des processus de production, dans du vrai travail. Et justement, j'ai le grand plaisir de recevoir Tails de Tails Audio pour nous parler un petit peu de la manière dont il utilise, il recherche, il expérimente avec l'IA. Bonjour Tails, comment vas-tu ?
Salut Patrick, eh bien, écoute, ça va très très bien en cette matinée.
Oui, je suis content de t'avoir, il fait un peu frais. Tails, pourquoi je t'appelle Tails ? Parce que tu veux rester anonyme, ce que je respecte, mais ton travail, dont on a déjà parlé dans l'émission d'ailleurs, est une série de fictions qui s'appelle Tails Audio, et que tu as développé au cours des derniers mois peut-être.
Dans lesquels
tu as utilisé de plus en plus d'IA. Oui, c'est ça, tu as commencé en février. L'idée était de mettre à profit tes connaissances en IA pour créer des fictions, finalement, en audio.
Voilà. Ouais, exactement. En fait, le but, c'était de faire des sortes de... Moi, je viens de l'univers du cinéma et du jeu vidéo dans le sound design. J'étais également pianiste classique et puis j'ai aussi une formation... j'ai travaillé en tant que comédien pendant un moment. Et donc, le but, c'était un peu de combiner toutes les compétences sound design, comédien, machin. Et du coup, je voulais faire une sorte de film audio plutôt que de fiction audio, parce que des fois, les livres audio, c'est vrai que c'est un petit peu barbant. Moi, ça, des fois, ça me m'endort un petit peu. Donc, je voulais faire un truc un peu plus dynamique. Bon, j'ai essayé et je continue d'apprendre à chaque épisode.
C'est un truc qui m'a vraiment séduit, et comme je disais, on en a parlé dans l'émission ici et là, vous vous souviendrez peut-être de Patrick Bégé ou de ce genre de choses, puisque tu as utilisé entre autres ma voix, avec mon autorisation évidemment dans certaines productions. Et c'est pas pour ça que je voulais te parler, c'est plus parce que tu es, je pense, représentatif de ce qui se passe dans le monde professionnel, dans le monde des gens qui explorent l'IA, parce que, comme on le disait juste avant de commencer l'enregistrement, il n'y a pas d'experts en IA encore aujourd'hui, en IA générative, de la génération qui a vu le jour, on va dire, à l'été 2022. Il n'y a pas d'experts parce que c'est tout nouveau et tout le monde, les gens qui connaissent ces outils, sont des professionnels qui les explorent, qui expérimentent et qui font ce genre de choses. Et toi, tu as une expérience là-dedans. Je vais peut-être faire écouter un tout petit peu du troisième épisode de Tails Audio aux auditeurs pour qu'ils aient une idée un petit peu de ce que ça donne. C'est vraiment enfin, il n'y a pas que de l'IA là-dedans, évidemment. C'est toute une production.
Majoritairement, c'est pas du tout de l'IA. C'est à 95% fait à la main. Mais l'IA permet en fait de décupler les possibilités. Et ça, c'est super.
Alors, écoutons un tout petit peu. Je mets un extrait presque au milieu. Hop.
Ouais. Il tourna brusquement à un croisement et se retrouva face à un garde qui le fixait, surpris. Le garçon se figea un instant, puis reprit sa course, son cœur battant la chamade.
Hé, hey, toi ! Reviens, sale morveux !
Chef, on a un problème. Un des gamins vient de s'échapper.
Dans la salle de contrôle, le responsable constata avec irritation que les alarmes étaient désactivées. Furieux, il ordonna à ses hommes de trouver le gamin et de découvrir ce qui se tramait.
Allez, bougez-vous !
À vos ordres !
Pendant ce temps, l'homme qui avait libéré le petit avait repris sa place parmi les rangs des gardes, dissimulant habilement sa trahison.
Je rentre dans le circuit de ventilation.
Son chef s'approcha de lui, la rage dans le regard.
Et toi, bon à rien, vérifie un peu les systèmes de sécurité. On peut quand même pas laisser les alarmes désactivées toute la nuit.
À vos ordres.
L'homme hocha la tête et se dirigea vers le panneau de contrôle, dissimulant la satisfaction qui dansait dans ses yeux.
S22, RAS.
Il savait qu'il ne lui restait que peu de temps avant que l'évasion du jeune garçon ne soit arrêtée. Il pianota sur les commandes, faisant mine de chercher la source du dysfonctionnement.
Vous avez peut-être un petit peu entendu la voix de Patrick Bégé qui intervient là. Je vais passer un autre extrait pour montrer qu'il y a d'autres styles, d'autres...
L'Iris jeta un œil à son
d'autres
téléphone.
D'autres ambiances,
elle avait d'autres reçu une voix. Notification de rappel pour son stream prévu dans la journée, où elle devait explorer le bâtiment abandonné.
C'est l'épisode 3, le streamer des dômes.
Ce spectateur attendait ce live avec impatience.
J'essaye de retrouver une autre voix.
Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai l'habitude.
Écho hocha la tête en
direction. Donc on a différentes ambiances, différentes voix, différents effets spéciaux. C'est énormément de travail, évidemment, énormément de travail de sound design. Et il y a quelques petites insertions d'IA ou quelques outils que tu utilises.
Ouais. Notamment, la petite dont on a entendu la voix, c'est moi. Hein. C'est pas une vraie petite fille.
Hein. Et j'imagine que les gens ne s'en sont pas forcément aperçus. Je vais le remettre un petit peu.
Confirmer qu'il veillerait sur Mina.
Bon, j'y vais. Mais je reviens dès que j'ai terminé, promis. Echo, tu me tiens au courant s'il y a le moindre problème.
Alors okay, ça, c'est pas une IA. Hein.
Allez, file. Ouais, Lyris embrassa Mina sur le front et sortit de l'appartement, le cœur lourd. Équipée de son matériel de
streaming, parle pas beaucoup, Echo, donc...
J'ai mal partout, ouais. Et je me sens faible.
Echo posa sa tasse et s'approcha de Mina, palpant doucement son front. Tu n'as pas de fièvre pourtant, mais ta peau est si froide.
C'est pas... Oui, pas Echo, là. Comment elle s'appelle,
expliqua Lyris. Partagé ouais. Entre inquiétude et obligations professionnelles.
Écoute, ce que je te propose...
Oui, bah, on a entendu quand même, hein, je pense.
On a entendu, oui. Ouais. La voix de la fille qu'on a entendue, c'était une IA ou oui. C'était une vraie ?
Alors, tout dépend, parce que là, dans les extraits, il y en a deux. Il y a le personnage principal qui s'appelle Lyris, qui est en fait une personne qui fait du stream sur Twitch, qui s'appelle Ninist, qui a gentiment accepté de travailler avec moi sur cet épisode, et qui n'est pas comédienne, donc elle s'est bien débrouillée. Et l'autre personnage féminin qui est plus discret, qui s'appelle Mina, effectivement, là, c'est une IA. Et je ne l'ai pas fait parler beaucoup, parce que c'était l'une des premières que j'ai générées en février dernier, donc ça remonte. Et elle n'était pas terrible, j'avoue qu'elle n'était pas très malléable. Donc, des fois, j'ai dû faire 12 ou 15 fois la même prise pour essayer d'en tirer une phrase à peu près convenable et intelligible. Mais voilà, depuis, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'autres voix qui sont par contre, super, quoi. Qui sont vraiment... qui peuvent tout faire, vraiment.
C'est
et
marrant,
avec une
ça.
Qualité de son super.
Comme ça évolue et la vitesse à laquelle ça évolue. Avant de te laisser beaucoup plus la parole, je voudrais qu'on fasse une dernière chose. C'est que tu montres où tu en es aujourd'hui avec ces outils. Là, c'est des trucs qui sont générés, qui sont pré-générés. Mais comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, on en parle souvent sur le Discord, dans les channels de qui sont dédiés à la génération par IA, il y a aujourd'hui relativement simplement possibilité de faire des voix qui sont quasiment en direct. Est-ce que tu pourrais activer Patrick Bégé en direct en version...
Écoute, évidemment, je vais te faire une intro du rendez-vous tech. Laisse-moi juste quelques secondes pour activer le bouton magique.
Et on va voir ce que ça donne. Alors évidemment, ce n'est pas 100% la même chose, mais...
Bonjour à tous, je suis Patrick Bégé et vous écoutez le rendez-vous tchèque, le rendez-vous où on parle de gaufrettes sous toutes ses formes, les carrés, les rectangulaires, les rondes, vous saurez tout sur les gaufrettes de la République tchèque.
Et là, c'est en direct, c'est-à-dire que tu peux tout à fait me répondre. On a combien, 1000 millisecondes, à peu près une seconde de latence ? Un petit peu plus, visiblement. Ou alors, est-ce que ça a planté maintenant, du coup ? Ça marchait très bien, on répète. On ne t'entend plus, Tails.
Pardon, excuse-moi, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton de discussion. Attends, je relance le truc. Je n'ai qu'une main.
On relance.
Alors, et voilà, est-ce que tu m'entends ?
Alors est-ce que tu m'entends?
Voilà, là c'est bon.
Tu devrais m'entendre en double, normalement avec moi,
puis Patrick.
Ouais, tout à fait. C'est comme ça que
voilà,
ça marche.
C'est pour te montrer un peu voilà, la latence.
C'est pour te montrer un peu la latence que ça donne.
Ouais, donc c'est, on va dire, 500 millisecondes peut-être. Est-ce que tu peux supprimer ta voix à toi et du coup, qu'on fasse une toute petite conversation?
Ouais, alors attends, je relance l'IA.
Et donc, maintenant...
Oui, Patrick, c'est moi, c'est Patrick BG. Je suis vraiment content d'avoir désinstallé Destiny 2 aujourd'hui. C'était vraiment un très mauvais jeu.
Hé hey, oh.
Est-ce que tu m'entends?
C'est... Non, non, mais fake. C'est faux. Fake news.
Yeah, voilà. Je tiens à dire, je suis nul à Street Fighter 6.
Hein. Hey, non, savoir, non, non, on arrête tout de suite.
Mais vraiment, j'utilise Patrick, des raccourcis, stop. En fait. Je n'y arrive pas. C'est trop difficile.
C'est marrant parce qu'évidemment, quand on entend les deux lunes à côté de l'autre, je pense que les gens vont se dire « Oui, mais enfin, on sait bien lequel est le vrai et lequel est le faux. » Mais tout là, c'est... Ah, tu l'as redésactivé?
Okay. Ouais, je l'ai redésactivé parce que comme il y a de la latence, ça peut être un problème pour parler, en fait.
Mais je pense que pour beaucoup de gens, s'ils entendent la voix seule, isolée de ma vraie voix, ils pourraient se poser la question et ça évolue encore beaucoup, évidemment. Donc voilà un petit peu...
Oui, ouais. Non, je voulais juste ajouter par rapport à ça. En fait, la principale différence qui fait qu'on a l'impression que c'est pas vraiment toi, c'est surtout que c'est parce que c'est moi qui interprète ta voix. Mais si toi, tu te joues toi-même à travers l'IA, ça sera parfait. Il n'y aura aucune différence. C'est juste que je ne suis pas assez bon imitateur de Patrick Béja, si tu veux.
Oui, mais en même temps, l'idée, c'est de permettre à n'importe qui, même sans être bon imitateur de quelqu'un, de faire une autre voix. Donc, c'est mais ça continue à évoluer. C'est quel modèle que tu utilises pour ça?
Bah, écoute, là, globalement, il y a un modèle open source, il y a un système open source qui s'appelle RVC, Voice Changer. C'est, il y a plein de versions sur GitHub, il y a des forks et tout ça. Donc, voilà, avec ça, en fait, ça permet non seulement de charger des modèles. D'ailleurs, il y a une communauté sur Discord en France qui propose plein de modèles à télécharger si vous voulez un peu vous amuser. Vous n'avez pas besoin de faire de l'entraînement. Et aussi, le logiciel permet d'entraîner des voix avec son propre dataset qu'on crée soi-même. Et ça, moi, évidemment, c'est ce dont je me sers.
Alors, bon, revenons un petit peu au début, parce que là, on a fait de l'illustration pour expliquer un petit peu ce que tu faisais, comment tu le faisais. L'été, toi, tu es sound designer, tu es un professionnel, tu travailles dans ces domaines. À l'été 2022, arrivent les vraies explosions de l'IA générative avec d'abord de l'image et ensuite, petit à petit, ChatGPT, du texte et puis du son et ces choses-là. À quel moment tu commences vraiment à t'y intéresser? Par quels outils? Peut-être qu'on va faire un petit peu chronologiquement. Outils tu commences? Comment tu le vois au départ, etc. Donc, ta première confrontation avec ça.
Ouais. Alors moi, j'avais déjà testé il y a longtemps les premières versions de DALL-E et tout ça. Et quand j'ai vu Stable Diffusion, j'ai commencé à l'installer en local parce que j'avais une 2080 à l'époque et je trouvais ça assez sympa de tester.
Et Stable Diffusion qui est un modèle de génération d'images qui est en open source, donc qui est disponible à tout.
Exactement. Donc c'était cool de pouvoir le faire en local parce que ça permet de tester sans être limité par le nombre de tokens ou tu vois de crédits qu'on doit acheter en ligne. On peut générer du moment que tu as de l'électricité et puis ton PC qui marche, tu peux le faire autant que tu veux. Donc ça permet de tester et au début moi je testais Stable Diffusion pour faire des illustrations, pour faire mon site pro. Je me suis dit tiens je vais faire peut-être une petite mascotte avec Stable Diffusion, ça peut être sympa. Et puis au fur et à mesure, moi à la base, il y a quelques années j'avais appris Unity Engine pour être plus proche de mes clients en fait, pour essayer de parler un peu le même langage, j'avais fait des protos.
Et Unity, qui est un moteur de développement de jeux vidéo, il n'y a pas de souci. Donc oui, tu avais aussi appris un petit peu les balbutiements, enfin les prémices, comme on dit, les bases de l'outil pour développer des jeux aussi.
Voilà, donc en fait, j'avais fait ça, mais très vite, je me suis dit que si je voulais développer mon jeu comme je le voulais, ça allait me prendre 3 ans, et puis j'allais en vendre 10 sur Steam, dont 5 refund, donc pas terrible. Donc, je me suis dit, si je mettais à profit, en fait, toutes mes compétences et faire ce une sorte de podcast de fiction, mais qui soit plus proche de ce que je fais, c'est-à-dire dans mon travail, c'est-à-dire plus du cinéma ou de la fiction avec de l'image, quoi. Et donc voilà, j'ai eu ce concept-là, et l'IA est venue tout de suite parce que dès le début, je me suis dit que, par exemple, Stable Diffusion allait m'aider pour faire les illustrations, la vignette, le logo, la création graphique de l'univers du podcast. Et à ce moment-là, c'est vrai que je me suis dit, quand même, ça me permettrait d'avoir une compétence que je n'ai pas. C'est vrai que Stable Diffusion permet de faire pas mal de tests. Et puis, après ça, où est-ce que j'en suis dans mon histoire?
Donc, Stable Diffusion, oui. On rappelle, c'est vraiment du graphique. Hein. À ce stade, c'était un outil pour te permettre de faire des choses que tu ne pouvais pas faire, des petites illustrations, des mascottes, ce genre de choses, quoi.
Ouais,
mais on
exactement.
Touche pas encore à l'audio.
Et l'audio, en fait, c'est venu assez tard, parce que quand j'ai commencé à faire le premier épisode du podcast, je n'avais que Stable Diffusion, et j'avais aussi la version 3.5 de ChatGPT. Alors ChatGPT m'a aidé, moi, pour l'écriture, pas pour... il va pas m'écrire mes textes, mais par contre, je trouve que c'est un outil qui est assez formidable pour débloquer une situation. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai un personnage qui doit, par exemple, rencontrer un autre personnage, il doit lui faire confiance assez rapidement, et je ne voyais pas comment le justifier dans mon histoire, comment ce personnage pourrait faire confiance à cet inconnu. Et je demande à ChatGPT, est-ce que tu aurais des solutions? Donne-moi 10 solutions. Et il me sort 10 solutions complètement nulles. Quoi. Ça n'a aucun intérêt. Mais le gros avantage, c'est qu'en fait, c'est comme faire un brainstorming avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'imagination. En fait, ces idées sont inutiles, mais par contre, toi, ça te permet de développer et te débloquer des choses dans ton propre cerveau. Moi, ça m'a débloqué à plein de moments. Tu vois, qu'on me donne de mauvaises idées, ça me permet souvent de débloquer et de me dire, j'étais face à un mur, mais là, hop, je passe sur le côté. Et en fait, toi-même, tu trouves la solution. Et c'est en ça que ChatGPT, pour l'écriture, m'a beaucoup aidé, en fait, au départ. Trouver des solutions. Et ça, c'était assez pratique. Et au niveau technique, le podcast, en fait, dès le début, moi, j'ai voulu le faire en surround, en 5.1. Donc en vrai 5.1, pas en son binaural, parce qu'en fait je me suis aperçu que le codec d'Apple permet de faire ça, même si personne l'utilise, et les gens qui sont équipés d'AirPods Pro, AirPods Max, AirPods 3, ou même des systèmes Home Cinema pouvaient en profiter avec un son vraiment en surround. Et après j'ai regardé mes stats et j'ai vu que ça n'intéressait personne, donc j'ai arrêté.
Mais est-ce que là, est-ce que l'IA t'a aidé pour ça aussi, du coup?
Non, parce qu'en mixage, il y a des outils en IA qui existent, en fait, pour les professionnels du son, mais en fait, c'est pas encore très intéressant.
D'accord.
Ça marche pas.
Donc là, tu approches les graphiques et l'écriture, finalement, et l'IA t'a aidé à débloquer des choses là, et on va en reparler peut-être dans un instant.
Bien sûr.
Pour ce qui est du son... à quel moment tu t'es dit que ça pouvait agrémenter, saupoudrer d'une sorte d'épice, qui changerait un petit peu le goût, le ton, pour ton travail principal finalement, parce que là on parle de graphique, d'écriture, c'est pas ton travail principal.
Bien sûr.
À quel moment, qu'est-ce qui t'a intéressé, où est-ce que tu t'es dit, ça pourrait peut-être m'aider?
Alors, quand j'ai terminé mon épisode 1, qui était un peu un épisode prototype, dont j'étais content, mais avec le recul, je m'aperçois qu'il est plein de défauts, je me suis dit, c'est cool de faire ces petites histoires, mais c'est quand même un peu limitant, et en fait, je me saoule moi-même en écoutant ma voix qui fait à la fois le narrateur et à la fois les personnages qui ont les dialogues, en fait. Je trouvais ça bon. J'essayais de changer la tonalité du son, la couleur du son, avec un micro de studio pour le narrateur et puis un micro de cinéma, de prise de son cinéma pour les voix parlées, de dialogue. Mais très vite, je me suis dit, c'est toujours la même voix, les gens, ils vont être saoulés.
Et du coup, à ce stade, on est à quelle période c'est...
Et bien là, on est, je crois, en février, début mars de cette année.
Février-mars 2023. Ouais. Et donc là, c'est encore produit à 100% en traditionnel, sans aucune intervention de l'IA. On est d'accord au niveau du son, au niveau de l'audio.
Ouais, au niveau du son, tout est fait à la main, les musiques et tout. Et à ce moment-là, j'ai un ami, j'ai un super pote qui m'envoie un lien, parce que c'est un super pro de l'IA. Enfin, il est tout le temps au fait de toutes les nouvelles techno, et il m'envoie un GitHub en japonais, un truc, au début je comprends pas, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout, RVC et tout, je commence à regarder, puis au fur et à mesure, il m'explique, et puis je commence à l'installer, et je regarde les démos, et c'est un convertisseur de voix. Enfin, plutôt, je dirais moi en français, plutôt un transfert de timbre. Et là, je me dis, mais attends, mais si ce truc marche, mais c'est génial. Ça veut dire que je pourrais éviter de saouler les gens et faire plein de personnages différents en utilisant ma voix, tu vois. Parce qu'il faut bien comprendre que le transfert de voix, ce n'est pas ce qu'on appelle les TTS, les text-to-speech, comme par exemple quand Siri ou Alexa te parlent. Là, c'est réellement... Ça prend ta performance d'acteur, ce que tu lui envoies, et ça ne change que le timbre de la voix. Mais, par exemple, imaginons que quelqu'un soit le pire acteur de la Terre, il se dit « bon, bah, je vais entraîner DiCaprio, je vais jouer comme DiCaprio, ça va être top ». Bah non, ça va juste être DiCaprio qui joue très très mal. Tu vois, y a pas, ça ne donne aucun talent. Si tu ne sais pas jouer, ça ne t'aide absolument pas, pour rien. Et par contre, je regarde les démos sur le net et je ne les trouve pas terribles. Je suis un peu déçu, je me dis « ah, il y a beaucoup de parasites dans le son, c'est vraiment pas top ». Mais je me dis « je vais quand même tenter le tout pour le tout ». Je prends une demi-journée, je me fais un dataset moi-même et puis j'essaie de faire le mieux possible.
Tu peux rappeler ce que c'est qu'un dataset
tout à fait.
Pour les gens qui ne connaîtraient pas.
Alors, dans le cadre, par exemple, de l'IA de transfert de timbre, un dataset, ça va être une série d'extraits de voix, en fait. Il recommande entre 10 minutes et 1 heure. Et à ce moment-là, il fallait encore les découper en petits morceaux entre 5 et 10 secondes. Voilà. Et donc, tu parles, ou la personne que tu veux entraîner pour faire ton modèle parle, avec, si possible, différents phonèmes, avec quelques émotions. Mais il faut quand même que, si tu veux, le ton soit un peu stable pour que ça fonctionne. Si tu changes complètement, que tu cries, tu soupires, tu vois, tu parles très doucement, il peut y avoir une instabilité et le modèle n'arrive pas bien à comprendre ton timbre de voix. Il n'arrive pas à bien l'entraîner. Donc, je fabrique ce dataset où j'ai 30 minutes d'audio vraiment propre. Je fais ça à partir d'un vieil enregistrement en fait, théâtral des années 50 que je remasterise. Je balance ça dans l'IA. Mon PC calcule pendant 3 ou 4 nuits, je ne sais plus, ça a dû prendre peut-être facile 36 heures de calcul avec le GPU.
Toujours avec ta carte graphique, t'as 2080 à ce stade.
Toujours avec la 2080, c'était extrêmement
lent. Donc ça aurait été beaucoup
lent.
Plus vite avec une carte. La 2080, ouais. c'est une génération qui a peut-être 5 ans, je dirais. 6,
ah,
5,
ouais.
Quelque chose comme ça, 5-6
ouais,
ans.
5-6 ans, ouais.
Les plus récents iraient plus vite, ouais.
Ouais. Et du coup, même à ce moment-là, c'était tellement long que j'ai payé des crédits sur Google Colab, qui est un système pour les chercheurs de Google qui permet de louer des GPU en ligne. D'accord. Et j'ai payé genre 50 euros pour que ça accélère le truc. Et là, effectivement, ça allait beaucoup plus vite. Et donc, j'écoute le résultat final et je me dis, mais c'est pas possible. Ça marche, le truc marche. Alors, c'est pas perfect, hein, c'est pas parfait. On voit qu'il y a des défauts. Mais si dans l'IA, il y a beaucoup de ce qu'on appelle en anglais le cherry-picked, c'est-à-dire que tu prends toujours le meilleur. Quelqu'un qui va générer, par exemple, une image, il en fait 100, et puis il va prendre la 36e et il va dire « Regardez comme j'ai bien fait cette image !» Et en fait, il y en a 99 qui étaient absolument affreuses et il a pris la meilleure de toutes. Ouais. Bon, là, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que t'entraînes le truc, ça marche en général bien, mais il y a des défauts. Et donc, pour faire, par exemple, une bonne réplique, parfois, il me fallait enregistrer 5, 10 fois la prise pour essayer de recombiner les meilleures versions sans qu'il y ait trop de parasites ou de problèmes.
Chose quand une idée parasite, ça veut dire qu'à un moment, la voix fait n'importe quoi, ça saute, ça fait des vrais parasites audio.
Alors,
comme on y pense, ou ça fait quoi?
Pas tant que ça. Non,
c'est
pas
de
tant
l'hallucination
que ça. En fait,
d'IA en version audio.
Écoute, dans le cadre de l'audio, on remarque que les voix sont très sensibles aux S, à tous les sons S ou X. Et donc, quand ils passent devant un X ou un S, ça donne un effet comme quand tu passes sous un tunnel au téléphone. Tu vois, ça fait une sorte de distorsion, tu vois, une sorte de truc comme ça un peu bizarre. Et alors là, du coup, c'est grillé, quoi. Ça, tu peux pas les laisser passer, il faut absolument les corriger. Sinon, globalement, à part ces problèmes de S, selon le temps et la qualité de l'entraînement, tu peux avoir plus ou moins de détails dans la voix, hein, comme quelqu'un qui enregistrerait avec un très bon micro ou un micro qui serait plus flou, de moins bonne qualité. Mais sinon, voilà, c'est ça, c'est surtout ça le principal problème. Quand tu as un bon dataset, c'est ça qu'il faut corriger. Mais quand tu as vraiment un très mauvais dataset où derrière, le son original, par exemple, tu l'as pris d'une chanson que tu as dû modifier pour isoler les paroles, là, forcément, le résultat est moins convaincant. Alors, disons que quand tu remixes ça dans une autre chanson, comme on voit beaucoup Johnny Hallyday qui chante One Piece ou tout ça sur Internet, ça passe parce que l'instrumental est très fort. Donc, en fait, c'est noyé un peu dans tout. Mais si tu l'écoutes en solo, tu vas t'apercevoir que dès que la personne ouvre la bouche, il y a une nuée de parasites qui arrivent, de trucs qui sont un mélange de globi-boulga, d'instrumental derrière, ou ça peut être
bout de réverbération de la pièce. Où il y avait des restes de morceaux, enfin d'éléments musicaux dans le dataset. Quoi.
Exactement.
Ouais, donc, là, on est quoi, en mars à peu près ?
Là, oui, j'ai dû finir cet épisode. Donc là, du coup, j'avais deux voix en IA, un homme et une femme. Donc, j'avais plus besoin du tout de jouer les personnages. Je ne faisais plus que le narrateur sur cet épisode. Et tout le reste a été fait par les IA.
Tu n'as plus besoin. Joué, mais... C'est toi qui réenregistrais ensuite derrière, mais avec tes datasets que tu avais créés, tes IA que tu avais créés pour faire deux voix différentes. Et ça, c'est l'épisode 2.
Oui, exactement.
Et donc, à ce stade, la seule utilisation de l'IA, c'est encore... enfin, on en a quand même trois maintenant. L'illustration, le déblocage de script, donc la génération d'idées, le brainstorming avec ChatGPT, et ces voix avec... comment c'est ? VCS, RCS, je ne me souviens plus du nom.
Ouais, RVC.
RVC, pardon. Ouais. Voice Changer, donc quelque
et
chose...
Et en fait, j'ai même oublié de te dire un truc, c'est qu'à ce moment-là, j'ai le même ami qui m'a conseillé d'utiliser Whisper de OpenAI, qu'on peut utiliser en local et qui permet de retranscrire des voix sous forme de texte. Et du coup, je ne suis pas très actif sur YouTube, mais ça m'a permis de faire des sous-titres pour mes podcasts quand je les mets sur YouTube. Grâce à ça, puisque y a toujours une petite différence en fait, entre le texte que j'ai écrit et la version finale, parce que je fais des retouches de texte pendant que j'enregistre. Du coup, Whisper, je lui sors que les voix et il me refait un texte parfait. Et c'est vachement pratique.
Il est vraiment parfait, le texte.
Bah, honnêtement, en français, parce que moi, ma voix était très claire. Tu vois, comme j'enregistre en studio, les conditions étaient bonnes et il a réussi à me faire un truc avec aucune faute. Peut-être sur les noms propres, il s'est planté. D'accord. Mais bon, il y avait quand même peu de choses sur lesquelles il avait du mal. Ouais.
Du coup, là, effectivement, on dit que tu disais mars-avril, tu as utilisé l'IA dans différents domaines et on va arriver aux évolutions également et à cet épisode 3 auquel, évidemment, le plus important est que Patrick Béger a participé. Mais donc là, on est à un moment qui m'intéresse particulièrement parce que, alors tu fais ça dans ton temps libre pour t'amuser, mais si on met de côté, je vais le dire quand même, mais on met de côté toutes les questions d'implication de droits d'auteur, les questions de conséquences sur le travail, sur les métiers de certaines personnes, sur la manière dont ça va faire évoluer énormément de choses, le travail, la société, etc. Si on met tout ça de côté, un instant, l'approche que tu as eue me paraît vraiment intéressante parce qu'elle est représentative de ce qu'a été l'évolution technologique et que j'évoquais parfois dans l'émission, l'évolution technologique depuis toujours, mais en particulier avec l'informatique, on va dire depuis 50 ans, c'est que ça fournit des outils aux humains pour qu'ils puissent soit faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant, alors peut-être pas aussi bien ou différemment de gens dont c'est le métier, mais possiblement, là où ce n'était pas possible pour eux, ou alors mieux faire des choses qu'ils savaient déjà faire, augmenter leur productivité, et donc avoir une meilleure productivité, c'est comme ça que ça se dit. Il y a une image que j'utilise parfois, qui me paraît assez bien symboliser cette progression, c'est l'image du vélo. C'est Steve Jobs qui disait, bon, encore lui, hein, on y revient toujours, qui disait, si on regarde les animaux les plus rapides de la Terre, bah, l'homme est très très loin derrière tout un tas d'animaux, comme je sais pas, le guépard, l'aigle, tout un tas de trucs. Mais si on considère l'homme avec un vélo, bah, tout à coup, il est en, je sais plus, 7e position sur Terre, quoi. Et donc, le vélo est un outil qui permet d'améliorer ce que peut faire l'être humain. Et lui, c'était pour vendre son Mac, il disait « je veux que le Mac soit un vélo pour le cerveau », quoi, en gros, pour permettre de mieux faire, plus faire, aller plus loin, etc. Et c'est vraiment une vision du progrès technologique qui, moi, me paraît hyper intéressante. Et là, ce que tu fais, toi, en tant que professionnel qui s'intéresse à ces outils, c'est un petit peu une implémentation de cette idée qui est classique, hein, que plein de gens explorent. Et l'une des raisons pour lesquelles je voulais te parler... c'est que tu me parais représentatif, effectivement, de tout un tas de gens qui, peut-être certains, écoutent l'épisode aujourd'hui et se disent « mais moi aussi, je fais ça pour d'autres domaines, peut-être. Hein. » Toi, on parle de l'audio principalement, mais il y a plein de gens qui sont dans plein de domaines, qui s'intéressent à ces outils, qui défrichent, qui expérimentent, parce que, comme je le disais, il n'y a aucun expert aujourd'hui encore, c'est trop jeune, et plein de professionnels qui expérimentent dans ces trucs-là. Peut-être que certains, comme toi, font tourner leur modèle en local, voient ce qui marche, ce qui ne marche pas, et voient comment ils peuvent utiliser tout ça pour améliorer la manière dont ils font ce qu'ils aiment faire ou ce qu'ils, leur métier déjà. Donc toi, tu es dans cet état d'esprit à ce moment, tu explores. Ouais. Est-ce que tu confirmes ce que je te dis là ?
Et... Oui, alors si je peux permettre d'ajouter quelques petites choses, moi j'ai quelques notes par rapport à ce que tu dis, et ce que tu dis c'est tout à fait vrai, et c'est tellement vrai que...
Alors ça va, tu peux continuer. Si tu ne me contredis pas, je suis satisfait.
Non, mais c'était pas un jugement du tout, mais en fait j'ai un ami qui est un peu insider de grosses sociétés qui travaillent dans le cinéma, dans la 3D, tout ça, et du coup il s'avère que les grosses sociétés qui font de la 3D, par exemple l'IA, ça les intéresse pas tellement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des plus gros GPU pour faire des plus grosses scènes qu'ils peuvent modéliser à la main. Pixar par exemple, ils ont pas du tout envie d'utiliser l'IA dans leurs films. Et l'IA, en fait, là où elle est, à mon avis, la plus pertinente et la plus utile, c'est ou pour les indépendants ou pour les petites structures. C'est vrai que ça va donner une sorte de pouvoir à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens ni le temps de fabriquer certaines choses. Alors, ça décuple leurs possibilités. Alors que sur des très grosses sociétés, ils ont quand même souvent des problèmes d'agilité. Tu vois, ils ne peuvent pas se permettre de changer leur workflow, leur manière de travailler et leurs outils tous les deux mois parce qu'il y a une nouvelle IA qui vient de sortir, un nouveau système, il faut tout réapprendre. Il y a aussi un problème souvent de hiérarchie où tu es obligé de valider 50 fois auprès de personnes pour changer des systèmes. Donc, il y a aussi ça, c'est qu'à mon avis, un groupe de 5 personnes bientôt sera capable de faire peut-être un dessin animé tout seul en utilisant beaucoup l'IA. Mais si tu demandes à une grosse boîte qui fait ça, tu vois, si j'arrive et moi je fais une formation à ces gens, utilisez Stable Diffusion comme ça pour faire vos images. Et là, pas de bol, 2 mois plus tard, tu as un nouveau système qui sort avec un tout nouveau workflow, tu es obligé de tout réapprendre de zéro. Les types, ils vont dire, attends, tu rigoles, on va pas tout changer, on a tout appris pendant 2 mois.
Mais là, ouais. on est encore en pleine ébullition dans l'évolution de ces outils. Je pense qu'à plus long terme, ça aura une influence sur les grosses productions également, de la même manière que tous les outils informatiques ont eu une influence. C'est marrant parce que, évidemment, on pourrait donner des parallèles. On va revenir à la manière dont tes workflows et ton travail, ce que tu pouvais faire a évolué, mais on pourrait donner plein d'exemples similaires. Par exemple, le fait de pouvoir créer un site web facilement seul. Alors, si on est web designer, évidemment que ça va mieux et c'est plus customisé et tout ça, mais n'importe qui peut créer un site web avec des outils simples. On peut tout seul avoir une présence mondiale facilement pour son commerce, pour son portfolio, pour ce que c'est. Et ça devient complètement anecdotique aujourd'hui si on n'a pas son portfolio en ligne, si on est créateur de n'importe quel type, artiste ou je ne sais quoi. C'est absolument nécessaire et c'est très facile, c'est très accessible. Le jeu vidéo est peut-être un exemple de plus grande envergure où, pour ceux qui écoutent le rendez-vous jeu, où je parle d'actu gaming toutes les semaines, je donne cet exemple aussi. On a aujourd'hui des outils, et c'est un domaine que tu connais également, des outils de développement qui permettent à des très petites équipes de faire des productions qui rivalisent, alors pas en valeur de production et en ampleur, mais qui rivalisent en qualité avec les plus grosses productions, avec très peu de gens, très peu de moyens. Et c'est d'ailleurs, c'est ironique parce que ça pose un problème d'abondance de contenu qui fait qu'on a trop de jeux pour pouvoir jouer à tout. mais je parle de ça, il y a la distribution également. L'outil informatique, là on ne parle plus du tout d'IA, mais l'outil informatique et Internet ont permis à n'importe qui de distribuer dans le monde entier par des plateformes en ligne, par des boutiques en ligne. Et tout ça offre plein de possibilités à plein de gens qui n'auraient pas du tout pu faire ça avant.
Et d'ailleurs, dans le cadre de Unity, il y a quelques jours, ils ont fait leur conférence et ils ont annoncé leur suite d'outils en IA qui permettent de générer des textures, qui permettent d'organiser des maps, tu vois, de créer des maps pour toi. Ils ont une sorte de ChatGPT interne à Unity qui peut répondre à tes questions, qui peut aussi t'écrire du code avec, je crois que c'est un abonnement à peu près à $30 par-dessus le modèle classique de Unity au niveau de leur abonnement. Oui, de leur abonnement, Donc voilà, ils vont sortir ça bientôt. Et honnêtement, ce genre d'outil va arriver, je pense, effectivement partout.
Et tu vois, tu parles de l'intégration à Unity, qui est peut-être dans l'informatique, dans le jeu vidéo. On est à la frontière de ce qui se fait aujourd'hui avec les nouvelles versions de ces trucs. l'intégration dans les studios de production, alors peut-être pas Pixar directement, mais dans les outils qui sont utilisés par ces studios. Peut-être que certains ont des outils développés en interne et peut-être que certains utilisent des outils développés par des grandes sociétés. Et ben, ils vont être intégrés aussi, je pense, à terme. Et c'est par là que ça va passer, peut-être. Mais,
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ouais. Mais bon, oui, pardon.
Non, non, je voulais aussi te parler des limites, si tu veux, de l'IA, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, honnêtement, pour essayer vraiment tous les jours des nouveaux systèmes, des nouveaux, tu vois, que ce soit les modèles de langage, la musique, enfin, j'essaye vraiment tous les jours, parce qu'il faut faire une veille pour pas être complètement dépassé, tu lâches le truc pendant un mois, t'es complètement has-been, mais il y a quand même beaucoup de limites, je trouve, dans l'IA actuellement, et il y a aussi beaucoup de gens qui te survendent l'IA pour, j'imagine, trouver des financements, et... Par exemple, des fois sur le net, tu vois un type qui poste sur Twitter une vidéo absolument hallucinante, magnifique, qu'il a fait en IA, on dirait un dessin animé, ou on dirait un truc en 3D, c'est splendide. Ouais, mais ce qu'on voit pas derrière, c'est qu'en fait, le type, il a bossé 15 heures par jour pendant 3 semaines, et qu'il a cravaché comme un malade pour sortir
37 secondes
ça,
de vidéo.
Ou même pas 37, des fois c'est 10 secondes, et tout le monde dit « Ouah, c'est ouf et tout, c'est incroyable !» Sauf que, bon, au final, c'est pas tellement... Tu aurais demandé ça à des artistes, ils t'auraient fait mieux en peut-être moins de temps, tu vois. Ouais. Donc, il y a toujours un truc, c'est pareil, moi, par exemple, pour les voix en IA, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a, par exemple, rire, c'est très difficile. Quand je commence à rire, c'est très cringe, quoi. T'as une IA qui rit, qui fait des trucs genre... tu vois, c'est ça ne marche pas.
Ouais.
Donc, l'IA ne peut faire que ce qu'elle a appris. Donc, si tu lui as pas appris à faire certaines choses, bah, elle va pas te le faire. C'est pas comme un humain qui peut déduire, même si elle peut essayer d'aller assez proche... Elle pourra pas faire ce qu'elle a pas appris.
Il y a quand même des choses qui évoluent, même en un an et demi depuis que ça a commencé. Par exemple, il y a des modèles de génération d'images qui aujourd'hui peuvent relativement correctement faire du texte. Alors qu'il y a quelques mois encore, c'était pas possible. Il y avait tout ce problème de dents et de doigts qui était très présent il y a encore 6 mois ou 1 an, qui aujourd'hui est relativement résolu. Donc les choses évoluent. Et la vidéo, je dirais, la vidéo et la musique sont les prochaines frontières. Là, on a des trucs corrects dans les autres domaines, mais même s'ils continuent à évoluer, la musique, c'est pas encore tout à fait ça. Et la vidéo, évidemment, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a un problème également de cohérence d'une image à l'autre qui n'est pas tout à fait résolu.
Ouais.
Et pour recréer le même sujet d'une image à l'autre, c'est pas facile. Mais même pour ça, il y a des solutions qui commencent à...
Mais même sur des trucs un peu vintage comme Stable Diffusion, parce que Stable Diffusion, c'est honnêtement celui qui marche le moins bien par rapport à Midjourney et DALL-E. Même si Midjourney, finalement, derrière, qu'est-ce qui tourne, c'est Stable Diffusion.
Très c'est customisé même, c'est la même chose.
Évidemment. Non, parce qu'il y a un prompt engineering de fou, ils doivent avoir leur propre modèle. Enfin, c'est custom... À fond, c'est sûr, parce que les résultats sont excellents. Mais l'avantage de Stable Diffusion, c'est qu'effectivement, c'est très, très customisable et tu peux vraiment forcer des positions, des modèles, tu peux entraîner des styles. Il y a beaucoup de choses qui sont super, mais c'est vrai que c'est pas encore prêt pour être utilisé en prod, sur une grosse prod. Pour des petites prods, à mon avis, c'est super, ça marche super bien. Mais pour des choses vraiment ambitieuses, faut y croire, quoi. Ou avoir beaucoup de temps pour générer beaucoup de choses.
Alors justement, beaucoup de temps, génération, évolution, changement. Il y a donc 8 mois, tu sors l'épisode 2. Comment les choses ont évolué depuis? Comment est-ce que tu as utilisé ces outils différemment, plus, peut-être moins, pour l'épisode 3? Et d'une manière générale autour de l'IA, parce que l'épisode 3, déjà, il date. En termes d'IA, il est ancien. Oui. Comment ça a évolué depuis et comment tu as suivi la chose ?
Alors, bon, déjà, l'épisode 3, il est beaucoup plus ambitieux que le 2 et le 1er. Hein. Il fait plus du double de temps. Enfin, il est mieux écrit.
Oui, on est à 50 minutes sur le 3, je crois.
Ouais, on est à 50 minutes. Et bah, en fait, ce qui a changé à ce moment-là, c'est que j'ai essayé plutôt que d'utiliser des nouvelles formes d'IA, si tu veux, c'est plutôt avec l'expérience que j'ai acquise des IA que j'ai fait travailler un peu avant, j'ai amélioré un peu tous les champs. Par exemple, bah, du coup, il y a beaucoup plus de voix en IA que j'ai entraînées. Et un truc qui est assez rigolo, par exemple, pour l'utilisation du transfert de voix, j'ai entraîné un dataset dont on parlait tout à l'heure. J'ai entraîné un dataset de ma copine qui n'est pas française. Elle parle japonais, coréen et anglais, mais elle ne parle pas du tout français à part une baguette, s'il vous plaît, et merci. donc, je l'ai entraînée et je me suis dit, bon, bah, on va voir. Et en fait, je l'ai entraînée sur une heure et je lui ai fait aussi répéter des trucs genre les phonèmes français, donc re, ra, ri, ro, ru, tu sais, les R qui sont un peu difficiles pour les langues asiatiques, et les che aussi, che, cha, chi, cho, chu. Et bah, au final, tu vois, elle parle comme toi et moi. Quand je l'ai fait parler, elle parle avec zéro accent. Parce que le dataset est tellement énorme, et en plus je l'ai enregistré en studio, donc la qualité est superbe, et le truc, il est flawless, quoi. Elle parle vraiment, c'est bluffant. Et en plus, comme vraiment la qualité d'origine est vraiment propre, c'est vraiment bluffant. Ouais. Ouais. Donc du coup, je l'ai intégré dans l'épisode 3. Et puis, voilà, c'est ça. Moi, ce que j'ai fait dans l'épisode 3, c'est que j'ai voulu aussi intégrer une chanson pour la première fois. Parce que j'avais commencé à voir les gens faire des chansons sur Internet, avec Johnny qui chantait One Piece, dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Et je me disais, tiens, toutes mes voix en IA, j'ai jamais essayé de faire une chanson. Tu vois, je me demande comment ça fonctionne, parce que je ne les ai pas vraiment entraînés pour chanter. Et au même moment, j'ai un très bon ami à moi qui me montre une chanson de Sting qui chante pour, je crois, la série Arcane. Une super chanson, vraiment très belle. Et je me suis dit, attends, mais moi aussi, j'ai envie d'avoir Sting dans mon podcast. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre des interviews de Sting, je les remasterise pour que ce soit équilibré, bien propre. J'entraîne Sting et là, je compose une chanson en une heure et demie. Je chante moi-même et je change ma voix en celle de Sting. Et bah, ça marche. Voilà, il y a Sting qui chante dans mon podcast. Donc ça c'est assez bluffant parce qu'en fait, je me suis aperçu en faisant ça que finalement, le chant, c'est ce qu'il y a de plus facile dans le transfert de voix. C'est ce qui marche le mieux. Le plus difficile, c'est justement tout ce qui est émotion. Voilà, quand tu dois faire un personnage qui a des émotions, pas juste par exemple un personnage qui fait une narration, c'est ce qu'il y a de plus facile, le chant. Donc voilà, ça marchait vraiment pas mal, quoi. Ça marchait vraiment pas mal. Donc ça, j'ai ajouté ça. Et je me suis dit que j'allais essayer d'ajouter un petit peu de techno dans ce podcast aussi. Donc j'ai utilisé le système de chapitrage qui existe dans les MP3, dans les podcasts. Et à ce moment-là, j'ai généré des images avec Stable Diffusion. Et à chaque chapitre du MP3, il y a une image différente. Ce qui fait que, alors ça ne marche pas en streaming, il faut télécharger le MP3 pour voir cet effet.
Moi, je l'ai affiché dans VLC et ça ne marche pas.
Et ça ne marche pas, ouais. Je suis hyper frustré. J'aimerais que ça marche mieux. Oui. J'ai vu que ça marchait sur Apple Podcast, j'ai vu que ça marchait sur le Finder.
Quelques petites
en fait.
Notes avant.
Et ça... Ouais, je t'en prie.
Excuse-moi, vas-y, je vais continuer. J'essaye de voir les images ailleurs et je n'y arrive pas. Ouais. Mais ça marche sur Apple Podcast.
Ça marche dans dans certaines apps. Alors, du coup, je vais continuer à le faire, mais je ne sais pas si ce sera... Bon, ce sera toujours utile pour faire des vidéos YouTube. Hein. Ça me permettra de les illustrer. Et donc, j'ai fait ça. Une fois que j'ai sorti le podcast, je me suis dit que j'allais encore passer la vitesse supérieure sur certains trucs. Donc, l'épisode 3 est sorti avec plus de voix en IA, la chanson, ses chapitrages, avec des images que j'ai générées avec Stable Diffusion, mais qui ne sont pas forcément très, très jolies. Et là, je me suis dit, mais attends... Si on essaye de faire un truc sympa, on pourrait utiliser Unity pour faire une sorte de moteur de podcast. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon ami ChatGPT-4, pour le coup, qui m'a aidé à faire plein de scripts. On a dû écrire ensemble avec ChatGPT, je ne sais pas, une vingtaine de scripts où j'ai fait mon propre moteur, pas de visual novel, mais en fait, je dirais de podcast novel. C'est-à-dire que j'ai généré à peu près 220 décors qui correspondent à chacun le décor d'une partie de l'histoire du podcast, de l'épisode 3. Et j'ai aussi généré des personnages que j'ai générés sur fond plutôt unique, j'ai pu détourer par la suite. Et du coup, ça me donne des portraits comme dans un visual novel avec un décor derrière. Et bah, du coup, l'avantage, c'est que grâce à Unity, j'ai fait des scripts qui, automatiquement, avec le nom, si tu veux, de l'image du background, de l'image du décor, va automatiquement mettre sur le bon time code le décor. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un décor que j'ai nommé 1 minute 30 secondes. Il va automatiquement placer à 1 minute 30 secondes. Donc, en fait, je génère tout. Je mets les time codes dans mon Explorer de Windows, par exemple. J'appuie sur le bouton grâce à ChatGPT et il me lance tout ça au bon moment. En fait, j'ai fait une sorte de vidéo player. C'est pas un vrai visual novel. Ça ressemble à un visual novel, mais c'est plutôt un vidéo player. Et qui utilise justement des décors et puis les portraits générés par IA des différents personnages. Ça, je ne l'ai pas encore sorti. Je t'ai envoyé une vidéo un peu en exclu parce que j'aimerais bien le sortir uniquement quand j'aurai fini toute mon histoire de l'épisode 3 qui est en plusieurs parties parce que chaque épisode est indépendant. Et donc, l'épisode 3, il a encore deux parties devant lui. Donc, j'attends de tout finir pour sortir ça.
D'accord. C'est une... Du coup... Là, on est vraiment dans l'étape. Alors, tu dis, c'est pas vraiment une vidéo, mais en fait, c'est un truc. Enfin, comment décrire une fiction audio illustrée ? On s'approche de quand tu dis, je veux faire une sorte de cinéma audio, plus proche du cinéma. On s'en approche là.
Le but, si tu veux, c'est que ce soit immersif et je pense qu'aussi pour faire connaître des choses aux gens, les gens sont quand même sur les réseaux sociaux. Le plus attiré par le visuel. Donc évidemment, c'est difficile de vendre un truc audio, et d'autant plus que moi, je trouve que les livres audio ou les fictions audio, il y a un petit côté grand-mère, tu vois, un truc de vieux. Oh là là, c'est mamie, elle peut plus voir très bien, elle n'a plus de livres, alors donc elle va prendre Audible. Donc moi, j'ai envie un peu de casser ça.
Moi, j'aime beaucoup les livres audio, hein, quand même.
Moi, j'aime bien aussi, hein, mais j'avais un a priori moi-même, en fait, à propos de ce domaine. Et quand j'allais faire mon sport et que j'écoutais des livres audio sur Audible, des fois, je me disais, oh, la voix est hyper monotone et tout. Bon, c'est super, mais 8 heures d'une voix monotone, c'est tout le temps la même voix, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de bruitage. Tu vois, moi, je trouvais que c'était un petit peu dommage. Alors, tous les livres audio ne sont pas comme ça. Il y en a qui ont justement des bandes-son qui sont très chouettes. Hein. Mais donc voilà, j'ai fait un truc avec Unity et du coup, avec ce moteur, ça m'a permis aussi d'intégrer de la 3D. Donc en fait, j'ai à la fois des personnages qui sont en 2D, j'ai aussi des décors qui sont par exemple des modèles 3D qui peuvent tourner autour des personnages, j'ai des couloirs que j'ai générés, dont j'ai généré les textures avec Stable Diffusion, que j'ai ensuite intégré dans Unity, que je fais défiler un peu comme un Wolfenstein 3D de l'époque ou un Doom, quoi. C'est pas de la haute qualité, mais en tout cas, ça permet d'avoir vraiment un côté dynamique. Et il y a une force aussi
tu l'utilises, enfin ça fait quoi en fait, c'est un moteur 3D plutôt que simplement le sortir sous tu vois, t'aurais pu utiliser Final Cut ou un logiciel de montage et puis animer un petit peu chaque image en demi, tu vois, avec des petits mouvements ici ou là.
Alors le gros avantage, c'est que une fois que tu as fait ton moteur qui fait ça, qui peuple tout automatiquement, en fait, ça te fait gagner un temps fou. Alors que quand tu fais un truc avec Final Cut, tu es obligé toi-même de faire un à un, de remettre toutes tes images. Mais là, avec ça, j'appuie sur un bouton, il m'a tout mis au bon endroit et ça me fait une sorte de player Unity qui tourne en temps réel. En plus, c'est très peu gourmand. Hein. Là, j'étais à 500 FPS, un truc comme ça. Donc, même avec quand je mets des éléments 3D ou des lumières dynamiques ou des textures j'essaie de faire
très vite,
c'est hyper rapide. Ça pourrait tourner sur une machine à laver. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt, si tu veux, à le faire sur un logiciel de montage parce que ça voudrait dire qu'à chaque épisode, je reviens de zéro. Alors qu'une fois que là, j'ai fait mon moteur, une sorte de player de podcast, non seulement je peux l'exporter en tant que vidéo, si je veux qu'il n'y ait aucune interaction, mais je peux aussi, par exemple, le mettre sur Itch.io ou un truc comme ça pour que les gens puissent le télécharger et puissent naviguer entre les différents chapitres. Et il y a aussi un truc, c'est que comme c'est dans Unity, c'est déjà à moitié un jeu. C'est-à-dire que si je voulais à un moment faire une pause, dans l'épisode 3 par exemple, il y a un personnage qui à un moment découpe des caisses et des objets pour s'entraîner au sabre, bon bah à ce moment-là, je pourrais faire un mini-jeu Fruit Ninja, tu vois, c'est pas difficile, puisque c'est déjà dans le moteur, j'ai déjà mes assets, j'ai tout, j'ai déjà mes bruitages que je peux isoler pour faire les bruits d'impact et les bruits de sabre, donc... Tu vois, la fusion entre le podcast, le jeu et le visuel peut se faire vraiment très rapidement en utilisant un moteur, alors qu'avec Final Cut, bon, bah, y a zéro interaction, quoi, ça c'est sûr.
Ouais. Du coup, là, tu en es à un moment où tu es en train d'explorer cette intersection entre le son, la vidéo, l'interactif, l'animation, tout ça. Et ouais. Je pense que certains auditeurs pourraient se dire « Oui, bon, bah ok, t'as fait des trucs, j'ai déjà vu des trucs comme ça. » Mais la vraie différence, comme on le disait tout à l'heure, c'est que t'as tout fait tout seul, finalement. Est-ce que ça aurait été possible à faire sans l'IA, ou est-ce que ça aurait été possible, mais ça aurait nécessité 2 fois plus de travail, 10 fois plus de travail ? Et puis, une autre question... Qu'est-ce que tu vois autour de toi chez les gens qui font ton métier par rapport à ces outils et à ce que tu fais ou à... Tu vois, quel est le rapport à tout ça dans ton industrie ?
Alors, par rapport à si j'avais pu le faire sans l'IA, techniquement, bah vraiment non, parce que pour les personnages féminins, par exemple, au départ, mon idée, c'était de les faire parler de manière indirecte via le narrateur, puisque, évidemment... Autant je peux transformer ma voix pour faire différents personnages, autant sur les femmes, je ne peux pas faire une voix de femme. Donc ça aurait énormément limité les interactions. Et moi qui recherchais plutôt un côté cinéma, les dialogues c'est important. Il ne faut pas qu'ils soient non plus pesants et trop longs, mais il ne faut pas non plus qu'il n'y ait aucun dialogue, parce qu'on se retrouve dans les travers que je trouve moi du livre audio parfois qui sont un peu barbants. Donc ça, je n'aurais pas pu le faire, ou j'aurais dû tout simplement payer des acteurs. Et comme moi je le fais à but non lucratif, c'est un truc que je fais sur mon temps libre qui me fait plaisir, ça aurait été vraiment encore plus... Là déjà qu'un épisode, ça doit me prendre pas loin... Le dernier m'a pris pas loin de 100 heures de travail. Donc si tu veux, si en plus je devais payer des acteurs, ce serait compliqué. Mais moi... À terme, le but, ce n'est pas de remplacer les acteurs. Au contraire, ce serait d'avoir un modèle économique ou d'être suffisamment à l'aise pour pouvoir justement n'avoir que des acteurs. C'est quand même plus confortable, tu vois, que d'être obligé de bidouiller avec l'IA.
Bien sûr, mais alors, c'est marrant parce que tu dis ça, et je suis sûr que tu le penses sincèrement, mais peut-être que toi, c'est ton intention, et évidemment que dans ton métier et dans ton industrie, tu vas défendre l'importance des acteurs et du vrai travail et des vrais gens. Il y a peut-être d'autres personnes qui auront une vision différente et qui vont se dire « Bon, bah, moi, je fais tout seul, les acteurs, j'en ai plus besoin, les artistes, j'en ai plus besoin, et ça sera une qualité. » Et là, c'est un petit peu... On retombe dans le sujet dont j'ai dit qu'on va pas forcément en parler, mais la qualité ne sera pas aussi importante. Peut-être qu'on repérera les moments où, oui, bon, bah là, ça a été fait par IA, là, ça a été fait par IA, là, ça se voit, là, c'est le style de Stable Diffusion, là, c'est le style de machin. Mais si toi, tu le fais parce que là, c'est à but non lucratif et que tu dis, oui, mais si je le faisais sérieusement, je paierais des acteurs, d'autres ne se diront pas forcément la même chose. Et donc, je comprends la préoccupation des personnes dont c'est le travail, quoi.
Moi aussi, mais il y a aussi un truc qu'il faut quand même prendre en considération, c'est que dans le cadre, alors pas pour Stable Diffusion, hein, ça c'est clair que Stable Diffusion, je pense que ça peut faire du tort à des artistes et ça c'est regrettable. Pour ce qui est du transfert de voix, il ne faut pas oublier que derrière, si tu n'es pas acteur, ça ne fonctionne pas. Tu vois, moi j'ai travaillé pendant un moment en tant qu'acteur et c'est ce qui me permet de pouvoir jouer un peu tous les personnages, aussi bien des enfants que en utilisant l'IA pour transformer ma voix. Mais il y a un ton, il y a des manières de parler, c'est un travail d'acteur. Si tu le fais sans acteur, ça ne marchera pas.
Oui, mais tu peux avoir un acteur qui va faire 10 voix au lieu d'avoir besoin de 10 acteurs.
C'est certain, on peut le voir comme ça. Il y a aussi un truc, bon, ça c'est mon sentiment, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit véritable, mais plus j'utilise les différents systèmes d'IA, que ce soit voix, Stable Diffusion ou les modèles de langage, plus je m'aperçois qu'en fait, toutes ces IA, elles arrivent à un niveau de qualité qui est très élevé, par exemple, on va dire à 95%, mais j'ai l'impression qu'en fait, elles n'arriveront jamais réellement au 99%. Ou en tout cas, pour arriver à chaque pourcent supplémentaire, il faut un gap énorme de technologie, en puissance, en entraînement. Tu vois, donc, si tu arrives à 80% ou 90%, c'est très bien, 95%, c'est encore mieux, mais on le voit bien, en fait, n'importe quel graphiste, même avec la meilleure IA du monde, il trouvera tout de suite une image faite par, par un générateur d'images, surtout pour les parties réalistes. C'est vrai que pour les parties de dessin, on a quand même, et nous, été habitués pendant longtemps à regarder à la télé des dessins animés où les poses clés étaient chouettes, mais les intervalles franchement miteux. Tu vois, quand tu regardes des vieux épisodes des Chevaliers du Zodiac ou Dragon Ball, franchement, il y a des intervalles, il ne faut pas faire pause parce qu'ils sont vraiment immondes. Et donc ça, par exemple, si on avait un générateur d'image qui aurait une très bonne constante, enfin qui pourrait réussir à générer des images constantes, une continuité, eh bien là ça pourrait effectivement causer du tort.
Non, et puis on est au début encore, hein, c'est l'ébullition comme je disais. On a déjà, j'en parlais il y a quelques semaines dans l'émission, on a déjà des études académiques qui montrent que les photos de genre, si on crée des photos par IA, dans certaines personnes considèrent que les photos, enfin dans l'étude, hein, on considère que la photo est plus réaliste que les vraies photos de vraies personnes. Tu vois, donc un an à peine, on avait trop de dents, trop de doigts, on voyait les oreilles qui marchaient pas avec les cheveux, machin. Mais bon, ça veut pas dire que tout évoluera dans le même sens. Par contre, je suis d'accord que travailler avec une vraie personne, bah, ça te permet une flexibilité, une qualité, une originalité que tu n'auras pas forcément ou pas tout de suite avec une IA. Mais de la même manière qu'on peut créer un site web facilement sur un outil automatisé, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de web designer si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus poussé. Mais bon.
En même temps, je peux me faire l'avocat du diable aussi, puisque tu aimes bien avoir l'avocat du diable. C'est que pour le cas du transfert de timbre de voix, par exemple, dans le doublage, c'est très difficile de travailler avec des enfants parce que leur travail, il est réglementé par des horaires précis et ce genre de choses. Et que, bon, bien sûr, il y a des femmes qui font des voix d'enfants de manière vraiment très très bien, donc on emploie plutôt des femmes qui ont un timbre, voilà, qui font ça vraiment parfaitement, mais il n'y a pas non plus 100 personnes qui peuvent faire ce genre de voix, quoi. C'est vraiment un talent particulier, et justement avec une IA de transfert de timbre, tu entraînes un véritable enfant, et puis t'en as plus besoin, quoi. C'est un peu méchant, mais tu demandes après à une maman actrice ou autre d'interpréter la voix de son fils, et puis elle peut faire ça. Donc voilà, et ça décuple la productivité et la flexibilité parce que t'as plus besoin de faire venir des enfants, tu vois, ça simplifie les choses.
J'imagine qu'il y aura différents domaines dans lesquels ça sera applicable. Tes collègues, les gens de ton industrie, ils en pensent quoi? Et puis je voudrais qu'on regarde en avant un petit peu également ce que tu penses qui va se produire, même si on l'a un petit peu évoqué. Mais donc dans ton industrie, comment on vous regarde cette évolution?
Alors parce que moi je suis indépendant, mais dans ce que je connais de l'industrie plus du cinéma ou de la musique, franchement il y a très très peu d'IA, parce qu'en fait dans le domaine du son, il y a une sorte de fascination pour le matériel vintage, par exemple des compresseurs, des préamplis, des choses qui permettent d'amplifier les micros, même les micros par exemple, les micros les plus recherchés qui coûtent le plus cher, c'est ceux qui ont été fabriqués dans les années fin 70, début 80. Il y a des gens qui recherchent absolument le micro des années 67 machin, et des trucs qui valent une fortune, et c'est pas du tout des choses modernes. Donc en fait sur la partie son, il y a beaucoup de choses qu'on renvoie à l'analogique, et c'est vraiment l'antithèse de l'IA, l'analogique. Un truc par contre qui se fait de plus en plus et qui marche redoutablement bien, je trouve, c'est le nettoyage des prises de son cinéma ou autre par IA. Par exemple, c'est vrai que sur un plateau de cinéma, quand tu enregistres en extérieur, tu as souvent le bruit des voitures, si tu es près de la mer, tu peux avoir le bruit des vagues. Et le perchman, l'opérateur son, il va essayer de, au mieux, prendre la voix des acteurs, mais malheureusement, il va être obligé de prendre une partie du bruit des voitures qui sont derrière. Donc avec ces outils de nettoyage qui sont basés sur l'IA, ça permet de nettoyer de manière bien plus efficace que les outils qu'on avait à notre disposition avant. Donc ça, par exemple, ça marche bien.
Je peux vous dire, pour avoir travaillé dans le cinéma, que les pauvres ingé-sons, ils s'arrachent les cheveux. C'est à la fois la dernière roue du carrosse, alors que le son est le truc le plus important, évidemment. Quand on regarde une vidéo, le son est ce qui compte le plus. Et à la fois, j'ai quand même eu des expériences avec des ingé-sons qui étaient un petit peu relous quand même. Genre,
ça, écoute, Patrick, il faut qu'il y ait des cons partout, sinon c'est pas juste.
C'est particulier les ingé-sons sur des plateaux, mais
ouais.
Mais bon.
Moi, bref. Je travaille en post-production, donc je les connais pas trop. Mais par contre, pour parler aussi de l'IA musicale, moi j'avais une petite take justement là-dessus parce que c'est assez nouveau les générations musicales. Et l'une des meilleures, c'est celle de Facebook. Ils ont un modèle qui a besoin d'une grosse carte graphique et qui marche plutôt pas mal. Mais en fait, je trouve que ça n'a aucun intérêt, mais pour plusieurs raisons. Non pas parce que moi-même, je suis pianiste classique et je compose mes musiques, mais c'est plutôt parce que, si tu veux, quand tu génères un truc en IA et que avec un prompt, hein, donc tu écris « je voudrais une musique » dans le style de, par exemple, Ryuichi Sakamoto dans le style de Johnny Hallyday, le truc te sort une musique qui n'est pas toujours très cohérente, si tu veux, dans la progression musicale, mais ça sonne quand même pas trop mal, mais ça sonne un peu quand même comme une vieille cassette des années 80 que tu aurais copiée 2-3 fois, quoi. C'est pas très net. Mais c'est pas tellement ça, en fait, qui, à mon avis, handicape le développement de cette IA. C'est surtout que, en fait, tu as une offre, mais démesurée, en ligne, de boucles déjà faites, par exemple, des boucles de synthé, des boucles de drums et compagnie. Donc, plein de boucles qui te permettent de faire de la musique comme du Lego, très facilement, sans savoir lire tes notes, sans connaître la musique, tu ne connais rien. Et tu les mets comme des briques de Lego dans un logiciel qui lui-même est très, très facile d'accès. Et en 5-10 minutes, même si tu ne connais pas la musique, tu t'es fait plaisir. Tu as eu l'impression que c'est ta véritable création parce que c'est toi qui as mis les blocs ensemble. Donc, tu as la satisfaction de l'avoir fait toi-même et tu l'as fait en 5-10 minutes. Et ça ressemble à quelque chose parce que les blocs sont étudiés de telle sorte que ça sonne bien. Et donc là, tu as la satisfaction. Mais c'est pour ça que je trouve que en musique, c'est moins cohérent. Alors que si tu utilises un générateur d'images, il te sort une image en 7 secondes qui aurait pris à un artiste 8 heures de boulot, quoi. C'est ça la différence, tu vois. Il y en a un où en 10 minutes, tu t'amuses toi-même et tu as l'impression d'être un artiste alors que tu ne sais pas lire tes notes. Et de l'autre côté, tu ne sais pas dessiner. Le truc, en 7 secondes, il t'a sorti un dessin qui aurait été fait en 8-10 heures par un artiste. Donc, il y a vraiment un gap.
Je me demande si les gens qui n'ont vraiment rien à faire de la musique vont pas préférer écrire, parce que finalement c'est ça l'IA, c'est une interface texte, enfin humaine de parole, qui va vous générer autre chose que de la parole, ou autre chose que du texte. Donc d'écrire, je voudrais un truc comme ça, ou plutôt comme ci, ou plutôt comme ça, ça sera encore plus simple, tu vois, c'est juste 5% plus simple peut-être que de mettre ces blocs les uns à côté des autres. Et puis, il y a d'autres possibilités peut-être, mais ces 5% ou 10 ou 15 ou 20% de simplicité en plus suffisent à faire que les gens préfèrent ça quand ça marchera bien. Là, ce n'est pas du tout encore le cas. Mais...
Possiblement, c'est vrai que ça peut attirer des gens qui sont très pressés, les professionnels par exemple, qui veulent illustrer des petites vidéos news ou ce genre de choses. Mais pour par exemple des gens qui voudraient essayer de se lancer un peu dans la musique ou qui voudraient juste faire joujou. Honnêtement, ça n'a pas d'intérêt. En plus, tu retires aucune fierté d'avoir écrit un prompt et d'avoir un truc. Oh, c'est moi qui l'ai fait.
De mon avis, perçois mal. C'est que la fierté n'entre pas en jeu quand tu veux simplement illustrer un truc que tu as fait pour ta vidéo corporate, pour ton boulot, où tu dis c'est comme un deck PowerPoint où tu préfères avoir une jolie slide avec une belle illustration plutôt que du texte partout. Ah, tu t'en fous, c'est pas que tu vas dire « moi, je vais créer ma musique pour la présentation de mes résultats de vente du quatrième trimestre », tu vois ?»
Oui, alors là, t'as complètement raison. Moi, j'étais dans ma vision d'artiste, mais effectivement, dans ce cadre-là, l'IA pourrait très bien marcher. Ouais. Mmh. Ouais.
En conclusion, où est-ce que tu vois les choses évoluer dans les... Alors, à 5 ans, c'est impossible, mais vraiment, dans le concret, comme tu as suivi ça au quotidien depuis des mois et tu dis ça change toutes les 3 semaines, dans les 6 mois à venir, est-ce que tu crois qu'il y a des choses qui vont évoluer de manière significative ou est-ce que là, on est arrivé à un petit peu de stabilité,
de stabilité. Stabiliser AI, non. Écoute... Moi, j'ai l'impression que déjà, il y a beaucoup de process qui vont être... il y a beaucoup de choses qui vont être raffinées, qui vont être améliorées au fur et à mesure du temps. Là, je vois la communauté, notamment sur la génération d'images, est extrêmement active sur la génération de vidéos, que ce soit à partir des plugins de Stable Diffusion ou Runaway Gen 2, qui fait aussi des vidéos.
Ouais, c'est Runaway encore au balbutiement. Runaway est très, très utilisé. Hein.
Ouais, et puis ça marche bien, mais on voit que c'est encore de l'IA, mais c'est bluffant. Mais c'est bluffant, mais pas encore assez bon pour être confondant avec une véritable vidéo, quoi.
C'est ce qu'on voyait avec Dali, cool. Dali le premier du nom, ou des premiers Odell, où on n'avait que des images en format timbre-poste 512x512, même pas 256x256.
Ouais. Donc moi, je vois ça. Là, la communauté est effectivement très active sur tout ce qui est vidéo. Donc je pense que ça va encore effectivement s'améliorer pour la partie vidéo et pour la partie création d'images, qui est vraiment là où il y a le plus d'engouement. On commence à voir arriver les modèles, les prompts qui permettent de générer des modèles 3D. Donc tu commences, voilà, tu tapes voiture et puis le truc te fait un modèle 3D de voiture, pas forcément avec des textures, mais c'est encore, c'est en train d'arriver. Il y a ça qui va se développer. Il y a aussi un truc qui s'appelle le Gaussian splatting, qui est une méthode, mais alors ça, je ne sais pas si vraiment ça utilise l'IA. Bon bref, c'est une méthode, si tu veux, pour refaire son environnement en 3D via une série d'images, un peu comme on utilisait la photogrammétrie. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est prendre plusieurs photos et ça te génère un modèle 3D à partir de ça. Le Gaussian splatting, c'est un peu la même chose et ça utilise en partie l'IA, je ne sais plus pourquoi. Mais en tout cas, ça, c'est un truc qui est vraiment bluffant. Si vous avez l'occasion de voir sur Internet, c'est bluffant. Pour la musique, bah, ça va s'améliorer, évidemment. Un truc que j'ai vu passer la semaine dernière, encore grâce à mon ami qui m'envoie tous les bons plans en IA, il y a NetEase, la société chinoise, qui vient de sortir sur GitHub un modèle de TTS, donc Text to Speech. Donc, c'est pas un transfert de timbre, c'est toi qui tapes le texte et il transfère, enfin, il met ça en une voix.
Ouais, il crée une
voix. Il crée une voix, ouais. Pas comme quand Siri ou Alexa te parle, quoi. Et ce modèle, donc c'est open source évidemment, puisque c'est sur GitHub. Et ils proposent ça, en fait, ils appellent ça, je crois, Emoji Voice. Et c'est du text-to-speech qui est émotif. Donc tu peux lui dire pleure, content, machin. Et il y a un dataset déjà fourni de 2000 voix. En anglais et en chinois. Et la qualité audio est quand même laisse encore un peu à désirer, mais ça va s'améliorer. Et effectivement, c'est assez expressif. Le seul défaut que j'ai trouvé, c'est qu'il y a pas mal de voix anglaises qui ont un accent chinois, un petit accent chinois, pas très, très choquant, mais il y a quand même un tout petit peu d'accent parfois. Et ça, si effectivement les gens peuvent entraîner à un moment leur système ou leur propre voix avec ce système, bon, ça peut arriver. Ce que je vois, moi, c'est... Comme on peut intercaler tous les systèmes, ChatGPT, avec les API et tout ça, avec différents logiciels, on va peut-être se retrouver avec des voix synthétiques dans plein de logiciels pour aider à l'accessibilité. On va se retrouver avec ChatGPT partout, déguisé avec une moustache qui sera spécialisée dans le code, dans ce genre de choses. Je pense que ça va rentrer dans la vie quotidienne d'un peu tout le monde sans qu'on y ait d'un coup un gap. Je pense que ça va être très progressif. Sinon, moi personnellement, j'aime pas cette expression, pardon. Ce que je vois, c'est que il y a quand même des soucis, je trouve, avec l'IA toutes les IA qui se basent sur des services en ligne. Comme on voit là, juste récemment, il y a le patron d'OpenAI qui est parti. Et donc, ça aura changé certainement, sûrement.
Au moment où on enregistrait hier le résumé de la première étape de ça. Mais ouais. Oui, bref, pardon, tu disais.
Non, je disais, comme on voit qu'il y a parfois des remaniements, je veux dire, tous les gens qui font confiance aux services en ligne, comme Midjourney, ChatGPT et compagnie, je trouve que dans le cadre d'une... Tu vois, de tenter des choses un peu professionnelles, ça peut être, entre guillemets, dangereux. Parce que si du jour au lendemain, ils décident de changer leur modèle, ou si du jour au lendemain, leur modèle économique, ou si du jour au lendemain, ils décident de, on ferme, parce qu'on a dépensé tellement d'argent dans les cartes graphiques pour faire tourner nos modèles que ça nous coûte plus que ça nous rapporte, on va devoir fermer, ou on va se faire acheter par un autre. Voilà, c'est, moi j'ai toujours un problème avec tous les logiciels et les systèmes d'IA qui fonctionnent non open source, qu'on ne peut pas faire tourner en local, parce que quand tu as une entreprise aussi, moi je ne sais pas, si je suis une entreprise qui fait par exemple de la BD, je veux dire, ah super, Midjourney, c'est le top du top, je vais utiliser Midjourney avec l'abonnement le plus cher pour générer mes trucs. Bon, bah, si un jour, Midjourney, ils décident que le prix c'est x100 ou si leurs serveurs sont down, bon, bah, les gars, on ne peut plus travailler, quoi. Hein. Aujourd'hui, c'est vacances et puis on revient demain. Hein.
Donc, c'est pour ça que ils préfèrent des modèles que tu fais tourner en local, peut-être.
Ouais. Et puis aussi, Stable Diffusion, c'est celui qui a la plus grande communauté de bidouilleurs, et donc ça permet de faire des choses qui ne sont pas possibles avec Midjourney. Midjourney te fait des images superbes, mais tu n'as pas de contrôle, c'est rien comparé à Stable Diffusion, quoi.
C'est marrant donc, parce que... C'est pour ça. En conclusion, je dirais que on voit déjà, et c'est peut-être parce que c'est le tout début, bien sûr, qu'il y aura des outils plus customisables, plus facilement utilisables, même si on ne met pas soi-même les mains dans le cambouis, mais on voit déjà émerger une sorte de hiérarchie de connaissances, même avec ces outils qui sont censés simplifier les choses, c'est-à-dire que les gens qui savent vraiment les utiliser... réussissent à obtenir plus ce qu'ils souhaitent ou faire mieux ou faire différemment rapport à des gens qui vont simplement... Moi, je vais sur le Discord de Midjourney et je lui dis « Fais-moi ci » et bon, bah, je me démerde, j'essaye de me démerder avec les dernières versions de ce qu'il peut faire. Mais je ne suis pas aussi expert que des gens qui ont vraiment... Donc, c'est un niveau d'expertise. J'ai presque l'impression de voir... À l'époque où on mettait sur les CV, tu sais, tu mettais Office ou Internet sur ton CV dans les années, au début des années 2000 ou fin 90, tu disais oui, j'essaie d'utiliser Internet Explorer ou Netscape ou tu vois ce genre de.
Si t'es cool, tu mets Linux en plus.
Alors, je sais pas si t'es cool, mais mais tu pouvais effectivement. Ouais, si t'es barbu. Mais bien sûr que j'aime beaucoup les gens qui connaissent Linux. Effectivement, si les barbus sont cool, c'est bien connu.
D'ailleurs, Linux, ça marche très bien avec l'IA. Hein. C'est un OS qui est recommandé pour l'IA.
Eh oui, c'est indispensable évidemment.
Moi, je fais ça avec Windows comme un pécor, mais les vrais sont sous Linux.
Bon, bah écoute, Tails, merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps à nous expliquer un petit peu ton environnement et ton approche de l'IA.
Merci à toi.
Est-ce que on peut, pour découvrir ce que tu fais et ce que tu feras, aller sur tailsaudio.com, c'est ça ?
Oui, alors sur tailsaudio.com, il y a tous les liens vers les réseaux sociaux. Il y a aussi des petites icônes qui donnent des liens directs vers les pages des podcasts sur les différentes applications comme Apple Podcast, par exemple, Overcast et compagnie. Et puis, juste pour passer un message, c'est vrai que là, je commence à faire aussi des collaborations avec des youtubeurs. Par exemple, là, j'ai une collaboration avec un youtubeur qui fait de l'animation qui s'appelle Malek. Et donc, sa dernière vidéo, il y a notamment ma voix en tant que moi-même, mais il y a aussi de l'IA dedans. Donc voilà, moi, je suis toujours ouvert aux collaborations avec d'autres personnes parce que c'est toujours sympa de pouvoir partager les connaissances et puis les possibilités. Et puis, juste pour peut-être une dernière note sur l'IA, c'est que si tu es graphiste, tu vas réellement profiter d'un truc comme Stable Diffusion parce que ça peut vraiment t'accélérer ton workflow. Et moi, c'est la même chose avec le système de changement de voix. C'est-à-dire que effectivement, parce que je suis à la base dans le sound design, je maîtrise la partie son, ça permet de faire une IA de très bonne qualité. Donc, je pense que c'est pas forcément des outils qui sont comment dire, c'est pas des
en
ennemis.
Enfin,
c'est pas en concurrence. C'est à la fois ton meilleur ennemi et ton meilleur ami, quoi. Tu vois, l'IA dans ton propre domaine. Donc c'est pour ça qu'il faut, toujours, à mon avis, pour tous les professionnels, qu'ils soient graphistes ou qu'ils soient dans le son ou tous les domaines qui concernent l'IA. Moi, je leur conseillerais de se renseigner et puis voir ce qu'ils peuvent faire avec pour justement pouvoir les utiliser et en profiter au maximum parce que ça peut aussi les aider. Mmh. Et ils seront bien meilleurs que d'autres gens qui ne sont pas graphistes, par exemple. Parce qu'ils ont cette expertise dans le graphisme.
Oui. Ben c'est oui. Je pense qu'on se rejoint un petit peu dans tous ces domaines, toutes ces questions. Et c'est ce que je dis depuis un an et demi maintenant. Si c'est votre domaine, il faut vous y intéresser. C'est hyper important pour au minimum savoir ce que ça peut faire, comment ça marche, etc. Donc On est assez d'accord. Tu as été assez vite sur les moyens de te contacter. Donc, il y a talesaudio.com.
Oui, alors, talesaudio.com. Alors, je suis sur aussi Twitter, Blue Sky, Mastodon, Instagram, tout ça. C'est Tales Audio, tout attaché. Alors, Tales Audio, c'est pas le Tales des Furies. Hein, c'est Tales, T-A-L-E-S.
Oui, c'est pas la
c'est
queue.
C'est pas Tales la queue.
Poilu, hein. C'est voilà. les histoires, les contes. Oui,
ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça. Tales Audio, voilà, juste pour préciser l'orthographe. Mais sinon, voilà, c'est Tales Audio tout attaché sur tous les réseaux. Vous pouvez me trouver.
J'ai très hâte de voir ce que donnera cet épisode 3 en version vidéo qui se fait attendre.
Là, je viens de finir d'écrire la partie 2 de l'épisode 3, qui est très rigolote. Mais par contre, la vidéo, ouais, je préférais attendre de finir vraiment l'histoire de l'épisode 3.
Donc, on n'y est pas encore.
Et voilà, on n'y est pas encore, ouais. Mais je mettrai peut-être des teasers sur Instagram et tout ça. Je vais commencer à poster un peu plus.
Ça marche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pour ma part, c'est NotePatrick un petit peu partout, notepatrick.com, bien sûr, pour tous les liens vers tout ce que je fais. Et on se retrouve du coup, si tout va bien, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, à la rentrée, avec un épisode classique, avec de l'actu. Je suis sûr qu'il sera passé plein de choses intéressantes. Et on vous en parlera, comme toutes les semaines, dans le rendez-vous tech. J'arrive plus à parler. Merci à tous et à toutes, et à dans une semaine. Ciao, ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.